Vous écoutez On lit pour vous.
Portland, la progressiste, fait marche arrière. Un texte d'Yves Boisvert, paru le 11 mai 2024 dans la presse. Le maire de Portland avait atteint une notoriété nationale en 2020 quand Donald Trump avait envoyé la police fédérale mettre de l'ordre dans sa ville où les manifs et les émeutes se succédaient jour après jour. À la 55e journée de manifestation après que les policiers ont tué George Floyd, le maire Wheeler était lui-même aux premières lignes quand les agents fédéraux ont envoyé les gaz lacrymogènes. Peu de temps après, citant son privilège blanc et le racisme systémique, il annonçait un définancement de la police, une diminution de 6% du budget et des effectifs. Le même maire, il y a 10 jours, renouvelait sa promesse d'embaucher 300 policiers à Portland sur une force de 800 agents de la paix, c'est une augmentation de 37,5%. Le chiffre, promis depuis 3 ans, est ahurissant et franchement irréaliste. Même avec la promesse d'un bonus de signature de 25 000 $ pour certains policiers, le recrutement tarde. Mais ça en dit long sur le virage spectaculaire d'une ville à l'avant-garde progressiste américaine qui veut envoyer un message de sécurité et d'ordre. Que s'est-il donc passé? Il s'est passé une augmentation de la criminalité, dont une montée en flèche du nombre d'homicides. Il s'est passé l'installation désordonnée de centaines de tentes et de gens qui trouvent refuge dans les entrées de commerce, d'immeubles. Il s'est passé une désertion commerciale du centre-ville, devenu un marché ouvert de vente et de consommation de tout ce qui se fume, s'injecte et se renifle. Car depuis 2021, à la suite d'un vote populaire, la possession de drogue dure a été décriminalisé en Oregon. À peu près au moment où le fentanyl commençait à faire des ravages. Une énorme erreur, dit maintenant le maire Wheeler, avec à peu près tous les politiciens des deux partis. En avril 2024, l'Oregon a d'ailleurs carrément annulé cette réforme vantée comme visionnaire il y a 3 ans à peine. Un peu comme deux savants barbouillés sortant d'un laboratoire en fumée après une expérience ratée, le maire Wheeler et la gouverneure Tina Kotek se sont donc présentés devant les journalistes il y a 10 jours à Portland. Ils faisaient le bilan le plus optimiste possible des 90 jours d'état d'urgence pour la crise du fentanyl déclarée en février. Chaque matin à 8 heures, pendant ces 3 mois, un groupe de travail faisait le point sur les opérations, plus de présence policière positive, enquête sur les surdoses, nettoyage des graffitis, clinique mobile de désintox, meilleur éclairage, enquête sur les revendeurs. Le maire a vanté les meilleures statistiques de criminalité. Les fusillades ont diminué. Les homicides aussi, 73 l'an dernier comparativement à 97 l'année précédente. Mais on déplorait 36 meurtres en 2019. Déjà le plus haut nombre depuis 15 ans. Cette ville est encore en choc post-traumatique. L'Oregon, et plus particulièrement Portland, est devenu l'exemple à ne pas suivre un peu partout en Amérique du Nord. À droite, où l'on pense trouver ici la preuve que la décriminalisation des drogues déresponsabilise les individus et conduit directement au chaos social. Et à gauche, où l'on dit que le problème n'est pas la décriminalisation, mais le manque de cohérence des politiques. Il ne suffit pas de ne plus envoyer des gens en prison, encore faut-il leur offrir des services. La décriminalisation n'était pas un projet porté par un parti politique, bien que plusieurs démocrates y étaient favorables. c'était une initiative de la Drug Policy Alliance, un organisme qui dénonce les effets dévastateurs de la guerre contre la drogue menée par les Américains depuis des années à coups de milliards et sans succès. L'organisme, soutenu par George Soros, a obtenu suffisamment de signatures d'une pétition pour faire inscrire la mesure 110 sur le bulletin de vote en 2020. Sur papier, la proposition était séduisante. On ne règle rien en faisant des usagers des criminels, après tout. On utilise les ressources de la police, des tribunaux et des prisons en pure perte. Mieux vaut les diriger vers des services sociaux et des traitements. On cite l'exemple du Portugal, où les services sociaux ont bien intégré cette réalité depuis 2001. On prévoyait d'utiliser les profits de la vente de cannabis, légale depuis 2015 ici, pour financer les programmes sociaux. Ça semblait non seulement empathique, mais autofinancé. Les électeurs ont voté à 58 % en faveur de la mesure, appelée joliment « Loi sur la dépendance à la drogue et la guérison ». La simple possession de drogue dure, jusque-là passible d'une peine de prison de 6 mois, devenait un délit mineur, entraînant une amende de 100 $. Sauf que les États-Unis ne sont pas le Portugal. Et même en Oregon, les soins de santé ne sont pas étatisés. Les services de soutien qui devaient être mis en place ne l'ont pas été, ou du moins pas assez. Et le fentanyl a aggravé la situation. Le nombre de morts involontaires dues aux opioïdes est passé de 472 à 1049 entre 2020 et 2023. Le rythme n'a pas ralenti cette année, d'où l'état d'urgence qui s'achève, bien que l'urgence soit toujours présente. Les partisans de la décriminalisation ont insisté pour dire que l'augmentation des surdoses mortelles, bien réelles, n'avait rien à voir avec la décriminalisation. On voit des courbes de mortalité comparables dans la majorité des grandes villes en Amérique du Nord. Et ce n'est pas l'absence de sanctions pénales des consommateurs de drogue qui est la cause de la criminalité, argue-t-il. Ajoutons que la crise du logement et les évictions, qui ont mené bien des gens à la rue, n'ont pas de lien avec la mesure 110. Sauf que le spectacle quotidien de la dégradation de Portland, quelle qu'en soit la cause profonde, a fait tourner le vent. La mesure est devenue extrêmement impopulaire. Il n'y a aucun doute que la réputation de la ville a été affectée, me dit Tim Knopp, un natif de Portland, qui était, jusqu'au printemps, leader républicain au Sénat de l'Oregon. Portland était comme une poubelle en feu aux nouvelles nationales. Les gens ne veulent plus aller au centre-ville, se font harceler par des gens intoxiqués, les voitures sont défoncées, il y a des vols. Il y a 5 ans, c'était une ville très sécuritaire. C'est bien beau, le traitement sur demande. Il faut l'offrir. Mais comment penser que des gens qui sont complètement partis vont avoir le jugement pour faire ce choix? C'est un peu ridicule. L'investissement en santé mentale, nous sommes d'accord, mais il faut un incitatif pénal à suivre des traitements. Ce qui passait pour un point de vue conservateur il n'y a pas si longtemps est maintenant le consensus politique dans l'État où l'annulation pure et simple de la mesure a été adoptée de manière bipartisane. La recriminalisation sera en vigueur en septembre 2024. Mais ce qui saute déjà aux yeux, c'est à quel point les autorités sont dépassées par la crise du fentanyl, légale ou pas. Le niveau de soins médicaux requis est énorme, parce que les ravages sont énormes. Les services sociaux aussi sont débordés. S'il y a un lit de traitement ouvert quelque part, je veux le savoir, a dit le maire, pour donner l'impression qu'il est à peu près en contrôle de cette ville un peu sonnée, un peu bosée. C'était « Portland, la progressiste fait marche arrière », un texte d'Yves Boisvert paru le 11 mai 2024 dans la presse.
Sous financement culturel et communautaire, et vous arrivez à dormir? Un texte de Christian Lapointe, paru le 18 avril 2024 dans Le Devoir. L'auteur est artiste et citoyen. Notre identité collective est forgée par des individus prêts à se rendre malades pour poursuivre leur nécessaire quête d'art. L'indigence par laquelle les artistes d'ici doivent passer pour un jour peut-être obtenir des moyens de création est absolument effarante pour une société aussi pourvue que la nôtre. En ce 18 avril 2024, journée de manifestation pour la survie des arts vivants, qui sont très certainement la source pauvre et détournée dans laquelle puise tout l'appareil industriel ou culturel du Québec pour se forger, je ne peux être parmi les miens. Étant à l'étranger dans une institution de renom, je représente le Québec malgré moi dans une manœuvre étatique qu'il est convenu d'appeler la diplomatie culturelle. Pour me rendre à ce stade, il m'aura fallu d'abord travailler plus de 10 ans à temps double dans une pauvreté rare. Si aujourd'hui, j'arrive à vivre de mon art, ce n'est pas le cas de plusieurs des collègues avec qui j'ai cheminé au fil du temps, qui n'avaient pourtant pas moins de talent que moi et qui se sont tout autant nourris de beurre d'arachide. C'est qu'au Québec, pour réussir à vivre même maigrement de son art, il faut faire le triple avec chaque sou que ce qui se fait dans tout autre secteur d'activité. Il faut aussi savoir lire et analyser des états financiers d'entreprise, connaître le code morin, rédiger des textes administratifs dans des formulaires arides, participer à des soirées bénéfices d'organismes qui ne peuvent que bien mal nous rémunérer quand on œuvre en leur mur en raison de leur sous-financement chronique, organismes qu'on soutient d'ailleurs déjà à longueur d'année en faisant une quantité énorme de bénévolat. S'endetter, etc. À bout de souffle. Il en va de même pour le monde communautaire. Cet autre monde sans qui notre société s'effondrerait et qui, comme nous, est particulièrement à bout de souffle. La société civile est à bout de souffle. Les artistes sont le cœur de notre rêve collectif. À regarder les priorités des tenants du pouvoir, il ne semble certainement pas y avoir d'envie de nous élever collectivement, de nourrir l'âme d'un peuple, ni l'estomac d'ailleurs, encore moins le ventre de celles et ceux qui fabriquent cet anima collectif. Vous pensez, chers élus, que nous pourrons tenir combien de temps à vous donner une substance qui vous permette de vous asseoir dans la maison du peuple portant le nom d'Assemblée nationale? Car sans artistes, pas d'identité. Sans identité, pas de nation, et sans nation, pas d'Assemblée nationale. Vous criez tous haut et fort, de différentes manières, en vous chamaillant presque comme des enfants dans une cour d'école, que vous êtes là pour l'intérêt du Québec. Vous défendez des visions nationales qui assoient vos politiques, mais au fond, en quoi pouvez-vous prétendre tout cela? Les chiffres que vous nous présentez au fil du temps sont clairs. Vous n'êtes pas à la hauteur de vos prétentions. Je dirais même plus. À vous voir nous endetter collectivement à ce point pour ouvrir une usine de piles qui ne nous appartiendra même pas, tout cela plutôt que de soutenir les forces vives qui sont littéralement au bout du rouleau, forces vives du monde artistique qui nous invente, oui, rien de moins, et du monde communautaire qui nous épargne d'une dérape monumentale. Bref, à vous voir aller. Il ne faut pas avoir la tête à Papineau pour comprendre quelles sont vos priorités. Quand une ministre de l'Habitation dit que les pauvres n'ont qu'à investir dans l'immobilier, comme si elle proposait que les culs de jatte n'aient qu'à apprendre à courir et qu'elle garde son emploi, son siège. Et en plus, Harry va faire voter des lois qui fragilisent les gens les plus à risque. Des lois que vous ratifiez d'ailleurs tous ensemble. Il me semble limpide que vous nous donnez régulièrement la preuve que vous ne vous intéressez pas au bien commun. Il est difficile d'écrire ici ces mots car, oui, ici à l'étranger, je réalise un rêve. Et je vis dans la peur de parler et de vivre de véritables représailles de votre part pour cela. Et j'ai peur, car c'est un rêve que j'ai nourri à la très grande sueur et au beurre d'arachide pendant trop longtemps. Un rêve si fragile, qui encore aujourd'hui se construit trop souvent à coup de 70 heures par semaine. Et ce rêve que je réalise, c'est le rêve de tout un peuple, en fait. Celui d'avoir droit d'être pleinement soi, ailleurs, à la table, parmi tous les autres. Le droit à la reconnaissance d'être. Il nous faut sortir de la peur, car c'est au prix de notre santé mentale et physique que nous continuons. Viendra un moment où cela ne se pourra plus, et où ces forces vives seront vraiment à bout. D'ailleurs, nous y arrivons. On ne peut plus faire ce que nous faisons pour des pinottes, et vos usines de piles ne nous rechargeront pas. Mais je n'en doute pas, cela sera certainement profitable pour les enfants de quelques-uns. De là où nous vous regardons, pendant que nous créons cette identité, jusqu'à saigner des mains et que nous continuons de transformer chaque maigre sou en une vaste richesse collective sur laquelle vous êtes assis, votre usine de piles, elle, semble nous vider collectivement de tous nos moyens. Mon souhait le plus cher, c'est que les miens gardent des forces, peu importe à quoi ils ou elles œuvrent en ce moment, pour au moins faire en sorte que vous nous trouviez le temps venu sur votre chemin. C'était « Sous financement culturel et communautaire et vous arrivez à dormir », un texte de Christian Lapointe, paru le 18 avril 2024 dans Le Devoir.
La tête d'un accusé peut influencer l'issue d'un procès. Un texte de Vincent Deneau, paru le 2 avril 2024 dans La Presse. Dans sa chronique du 14 mars 2024, Yves Boisvert revenait sur la saga de l'ex-juge Jacques Delisle. Le chroniqueur écrivait, peut-être parce qu'on lui avait trop dit que sa prétention et son orgueil notoire le rendraient antipathique aux 12 citoyens entre les mains de qui la loi avait remis sa vie. Mais un jury ne condamne pas un homme à l'emprisonnement à perpète parce que sa tête ne lui revient pas. Il écoute la preuve, soupèse les éléments, met ça dans sa balance mentale et regarde s'il subsiste un doute raisonnable. Autrement dit, les propos du chroniqueur suggèrent que le processus de prise de décision des jurés est rationnel, objectif et exempt de stéréotypes. Toutefois, la littérature scientifique sur le sujet brosse un tout autre portrait. Dans les systèmes de justice accusatoire, au Canada, aux États-Unis et en Australie, par exemple, les plaignants et les accusés témoignent d'ordinaire en personne. Ils expliquent au tribunal ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. Les jurés, lors de procès devant jury, doivent alors évaluer la crédibilité des témoins, laquelle joue sur le poids accordé à leurs explications et, souvent, sur l'issue du procès. Voilà l'endroit où la tête d'un accusé, pour le dire ainsi, peut influencer l'issue d'un procès. Pourquoi? Des décennies de recherches montrent très bien l'impact du comportement non-verbal sur les interactions de tout un chacun. Par exemple, les expressions faciales peuvent jouer sur l'établissement d'un lien de confiance. Voilà pourquoi un policier qui montre de l'empathie et de l'écoute risque d'obtenir davantage d'informations et de plus grande qualité d'un témoin. Même chose pour un médecin à l'endroit d'un patient. Les caractéristiques physiques, elles aussi, peuvent jouer. Par exemple, certaines personnes, du simple fait de leurs caractéristiques faciales, peuvent être perçues comme étant plus ou moins dignes de confiance, plus ou moins honnêtes. Il importe de le préciser. Il s'agit d'une perception, mais qui, néanmoins, a un impact bien réel. Les contextes sont nombreux. L'un d'eux, les tribunaux, est peu connu, peu discuté, mais fait pourtant l'objet d'une riche littérature scientifique. Je travaille sur le sujet depuis plus de 10 ans. Lorsque des témoins s'expliquent au tribunal, devant les jurés, le fond de leurs propos est évalué. Par exemple, leurs récits sont-ils cohérents? Mais il y a plus. La forme de leurs propos, elle aussi, est évaluée. Par exemple, le témoin est-il hésitant ou nerveux? L'influence du comportement non-verbal des témoins est d'ailleurs reconnue par le plus haut tribunal de différents pays, notamment le Canada, les États-Unis et l'Australie. Or, les stéréotypes quant au comportement non-verbal sont nombreux. Par exemple, un témoin honnête peut, lui aussi, être hésitant et nerveux. L'hésitation et la nervosité ne sont pas des signes fiables de mensonge, malgré la croyance du public à l'effet contraire. Mais dans un procès, lorsque des témoins sont hésitants et nerveux et que les jurés croient erronément y voir des signes fiables de mensonge, la crédibilité des témoins peut être affectée négativement. Autrement dit, en l'absence d'autres preuves, lorsque la crédibilité des témoins détermine l'issue d'un procès, la forme de leurs propos peut jouer sur l'issue d'un procès. Évidemment, pas dans tous les procès, mais cette possibilité n'est pas négligeable. Après tout, dans certains jugements écrits, parfois, l'influence du comportement non-verbal des témoins est décrite sans ambiguïté. Le fait d'apparaître prétentieux, orgueilleux, quant à lui, pourrait-il jouer sur l'issue d'un procès? Les propos d'Yves Boisvert sont catégoriques. Non. Toutefois, la recherche scientifique sur le sujet brosse, là encore, un tout autre portrait. Des chercheurs montrent, par exemple, que paraître impassible, sans émotion, peut jouer sur l'issue d'un procès. Même si aucun comportement non-verbal n'est un indicateur fiable de culpabilité. Évidemment, personne ne souhaite que des stéréotypes influencent les tribunaux. Le processus de prise de décision des jurés devrait être rationnel, objectif. Toutefois, l'irrationnel et la subjectivité font partie de la nature humaine. Il n'est pas question d'incompétence, il n'est pas question de mauvaise foi. Peut-on améliorer la situation? Sans doute. D'abord en reconnaissant l'influence de l'irrationnel et de la subjectivité lors de procès, puis en éduquant les juristes, ceux d'aujourd'hui et de demain, et peut-être surtout en évitant les propos catégoriques allant à l'encontre de décennies de recherches. C'était « La tête d'un accusé peut influencer l'issue d'un procès ». Un texte de Vincent Denoux, paru le 2 avril 2024 dans la presse.
Je suis caché au fond de la classe. Un texte d'Alicia Lessard, paru le 18 avril 2024 dans la presse. Alicia Lessard, une étudiante de la classe d'Isabelle Morin, s'est sentie interpellée par sa lettre où elle demandait « Où es-tu, mon bel étudiant ?»« Je suis ici, caché discrètement au fond de la classe, moi aussi derrière mon écran, par habitude d'éviter les situations d'interaction avec mes pairs. Je suis bien consciente du problème. Je le constate, je le vis quotidiennement, et j'en souffre comme toi, chère enseignante. Entre ces quatre murs de classe, j'écoute ton cours avec tellement d'intérêt, de curiosité, de soif d'apprendre sur les enjeux si intéressants de notre drôle de monde. Apprendre par plaisir, pour soi-même, pour le bien-être collectif et non pas sous la pression de la vilaine cote R. Je tente d'écouter parmi les distractions infinies de cet environnement pas du tout propice aux apprentissages. Mon collègue devant moi, qui prend des notes sur son ordinateur portable, dont le seul onglet ouvert affiche un petit jeu insignifiant, le son des notifications de la personne derrière moi qui planifie son prochain party, et les deux à ma droite, tête bien détendue sur le bureau, profitant du cours pour faire un power nap. Je suis là, présente dans ce local créé par le même architecte engagé pour la réalisation de n'importe quel pénitencier, sans fenêtre. Je laisse de côté pour toi, chère enseignante, mon angoisse sociale pour être une des trois ou quatre personnes engagées dans la discussion du cours et répondre aux questions afin d'éviter le poids étouffant du silence d'une salle de classe. Pourtant, si l'on souhaite non seulement réussir, mais aussi apprendre sur le monde, sur notre société et sur nous-mêmes, on ne peut pas passer ces années apparemment si formatrices la tête baissée, soumises à notre cellulaire. Malgré tout ça, je me sens rechargé chaque semaine grâce à ce cours qui me motive à imaginer une société plus équitable, consciente des problématiques actuelles. Celles qui, même derrière un écran ou quand l'on dort, ne peuvent nous échapper. Les plus belles années. On m'a toujours dit que le cégep est formateur, que ce sont les plus belles années de notre vie, qu'on apprend qui l'on est vraiment et que les amitiés au cégep sont les plus importantes. Malheureusement, en tant qu'étudiante en fin de DEC, je constate que tout cela est erroné pour de nombreux étudiants et que ce parcours est beaucoup moins alléchant en réalité. Le sentiment d'isolement social n'a jamais été aussi présent que dans une classe avec 40 autres étudiants. J'aurais aimé être né à l'époque pas si lointaine où créer des amitiés significatives au collégial allait de soi. Je suis plutôt dans une époque de transition sociale où une génération d'étudiants a perdu le désir de s'instruire. En 2024, c'est une minorité qui souhaite apprendre réellement, simplement pour le plaisir d'accumuler des connaissances et pour acquérir des savoirs. À toi, chère enseignante, sache que je suis là, que je te suis reconnaissante de poursuivre malgré tous les défis des étudiants de ma génération. Et à toi, cher collègue de classe, en rangeant ton cellulaire, en écrivant tes notes à la main et en prenant part aux activités pédagogiques qui te sont offertes, tu verras que l'école n'est pas si plate que ça et que tu peux y trouver ta place. C'était « Je suis caché au fond de la classe », un texte d'Alicia Lessard paru le 18 avril 2024 dans La Presse.